Bonjour et bienvenue dans l'entrepreneuriat c'est du sport, le premier podcast qui mêle sport et entrepreneuriat. Je m'appelle Eric Allard et avec mes invités, nous allons parler des liens qui existent entre ces deux mondes. Car entreprendre, c'est au sens large du terme, vouloir mener à bien un projet, que ce soit dans le sport ou dans le business. En parlant de sport, je ferai le parallèle avec ce que vivent au quotidien mes invités, qu'ils soient dirigeants, managers ou entrepreneurs. Nous évoquerons les valeurs communes à ces deux univers, comme par exemple l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la résilience ou encore la vision à long terme nécessaire à l'accomplissement des objectifs et à l'entretien de la motivation. Et les expériences partagées par mes invités vous aideront sûrement dans l'atteinte de vos propres projets. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, ou ce podcast en général, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. On va parler vitesse, passion, on va parler cybersécurité. Mon invité ce soir, Vincent Olivier, le Channel Marketing Manager de Bitdefender. Bonsoir Vincent.
Bonjour Eric.
Alors Bitdefender, c'est un des leaders mondiaux de la cybersécurité. Et je le disais, on va parler vitesse parce que vous êtes entre autres un des sponsors de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Vous êtes également sponsor d'une équipe de hockey sur glace, les Chicago Wolves, avec lequel vous partagez le même emblème, c'est un loup. Et enfin, vous êtes aussi partenaire technologique de l'équipe de basket NBA de notre star française, Victor Wembanyama. Est-ce que j'ai bien résumé ce que fait Bitdefender et ce que tu fais chez eux?
C'est un excellent résumé, Eric. Voilà, on est présent dans le sport, dans 3 sports aujourd'hui, avec une grosse médiatisation, une grosse audience pour chacun des sports. Et voilà, il y aura peut-être encore d'autres sports à l'avenir, mais voilà, pour l'instant aujourd'hui, on est cantonné à 3 sports.
Et donc toi, ton poste chez Bitdefender, tu es le Channel Marketing Manager, alors sur une grosse zone, hein, parce que tu as à la fois l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, hein, je crois, de mémoire, donc, et le Moyen-Orient, donc tu gères tout ça.
Exactement, ouais. Exactement. Donc sur les parties marketing, en fait, je vais assister les partenaires dans leur opération marketing, donc au sein de ces régions. Donc voilà, s'ils ont des demandes de marketing spécifiques ou des stratégies marketing à mettre en place, je vais être là pour les épauler.
Et donc, tu fais ça pour le B2B, B2C classique, mais est-ce que tu fais ça aussi pour...
Uniquement pour le B2C. Il y a une distinction qui est assez claire chez Bitdefender. Il y a le bureau B2C et le bureau B2B. De mon côté, c'est vraiment le B2C.
Et donc, on aura le temps d'en reparler. Tu aimes le sport aussi. Moi, les 3 sports dont j'ai parlé, ce sont des sports qui me font rêver. Donc, Formule 1, Scuderia Ferrari. En plus, la Scuderia Ferrari, c'est quelque chose qui, toi, te donne des étoiles dans les yeux. On en parlait avant, tu pourras peut-être nous raconter. Tu as été l'année dernière au Grand Prix de Singapour, c'est ça?
Exactement, oui. Alors moi, je suis un passionné de la Formule 1. Quand j'étais petit, j'ai suivi beaucoup la Formule 1. Voilà. Quand on est petit, on ne comprend pas tout, mais c'est vraiment pour le côté de voir des voitures qui vont vite et puis on attend toujours qu'il se passe quelque chose comme un crash, quelque chose comme ça. Voilà, depuis 5-6 ans maintenant, c'est plus par passion. J'aime beaucoup la stratégie qui est mise en place par les écuries. La relation qu'il y a entre les pilotes et voilà tout ce qui fait l'univers de la F1, moi ça me passionne et c'est vrai que l'année dernière j'ai eu l'occasion d'assister au Grand Prix de Singapour, une expérience incroyable. Le premier truc qui m'a marqué, moi, c'est quand on arrive sur le circuit, c'est le son. Quand on voit les voitures défiler pour la première fois, il y a un son qui est extraordinaire en fait. Qu'on ressent pas à la télé quand on regarde un live, mais là voilà, on vit vraiment le bruit du moteur et c'est incroyable. Et quelque chose aussi qui m'a frappé, une petite anecdote, c'est que chaque écurie en fait a son propre son. On va pas retrouver le même son chez Red Bull ou chez Mercedes ou chez Ferrari. Voilà, chaque voiture a son propre son. Alors tous font du bruit évidemment, hein, mais il y a des petites des sonorités différentes. Et voilà, pareil, je n'avais jamais ressenti quand je regardais ça à la télévision.
C'est un peu comme sur les voitures de série, alors de série de haut de gamme de ces constructeurs-là. Les puristes disent il y a un son Ferrari, il y a un son Mercedes, comme peut y avoir un son Lamborghini. Là, tu es en train de nous dire c'est exactement la même chose. Ils ont tous des moteurs qui font, je sais pas, 800 chevaux, qui sont des V quelque chose, mais ils ont tous leur sonorité différente.
Exactement, ouais. Exactement. Et puis quelque chose qui était assez sympa aussi, il y a dans les tribunes, il y a tous les supporters qui sont là. Et il y a une vraie ferveur des supporters pour tel ou tel pilote, telle ou telle écurie, qui est en fait comme dans un match de foot, par exemple, où voilà, il va y avoir deux types de supporters. Mais là, il y a 20 types de supporters, parce qu'il y a 20 pilotes. Et chacun a son pilote, chacun a son écurie. Donc c'est aussi très sympa de vivre l'ambiance différemment.
Est-ce que tu as pu voir un petit peu les coulisses en tant que membre d'un des sponsors de la Scuderia Ferrari ou est-ce que tu étais un spectateur lambda dans les tribunes ou est-ce que tu as pu voir un petit peu l'arrière du paddock et voir un peu comment ça se passait?
Alors là, on était que dans les tribunes. J'aurais beaucoup aimé aller sur le paddock. Voilà, là, on était vraiment en tant que spectateur et on a juste profité du Grand Prix.
On l'a dit en introduction, également les Spurs, Wembanyama, ça, quand on préparait l'épisode, tu me disais, c'est aussi parce que Bitdefender est localisé aux États-Unis près de cette équipe, géographiquement parlant. C'est une star, Wembanyama.
On a différents bureaux aux États-Unis, on a quatre bureaux et on a notre SOC qui est basé dans la même ville que les Spurs, à Dallas. Donc voilà, c'est lien géographique qui a fait qu'on a poussé le partenariat avec cette équipe.
D'ailleurs, sur la Scuderia Ferrari, vous êtes aussi sur ce... C'est pas seulement un partenariat financier, c'est aussi technologique. Vous les aidez dans la sécurisation de leurs données, etc.
Tout à fait. C'est un partenariat qui s'est fait en deux temps. Donc, il y a eu une première fois, c'est vraiment un sponsoring où on était présent sur les éléments qui marquent un peu la sécurité des pilotes, donc le casque, le halo et la combinaison. Et dès septembre 2022, on a élargi un petit peu le partenariat avec un partenariat technologique.
Parce qu'il faut se rendre compte que comme une entreprise à ces niveaux-là, que ce soit l'équipe des Spurs en NBA ou la F1 avec Ferrari, les enjeux financiers sont énormes. Et c'est vrai que la sécurisation des données, votre cœur de métier, hein, la cybersécurité, c'est au cœur aussi de l'entreprise, de ces entreprises qui sont à la base sportives.
Ah, tout à fait. Tout à fait, on ne peut pas laisser de porte ouverte à d'éventuels problèmes. Voilà, il faut vraiment sécuriser au maximum ces informations. Ces informations valent de l'or et c'est finalement la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Donc il faut être intraitable dessus. Ouais.
C'est ça qui fait aussi ces partenariats. Ce n'est pas seulement je suis un sponsoring classique, je donne de l'argent. Et c'est aussi cette compétence technique intrinsèque à Bitdefender qui a fait que vous avez pu vous associer avec ces deux grosses équipes.
Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Et du coup, l'année prochaine, on parle d'un match des Spurs à Paris, Wembanyama. C'est quelque chose que tu as envie d'aller voir. C'est quelque chose qui, toi, tu as envie de découvrir ça. Tu as envie de voir ce phénomène et cette équipe et ce jeu NBA qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir en France.
Moi, je ne suis pas un grand passionné de basket. Mais après, je m'intéresse au sport... En règle générale, donc j'adorais connaître davantage sur le basket, m'y intéresser de plus près. Et je pense que c'est l'occasion. Hein. On a cette star qui est chez les Spurs, donc c'est l'occasion un peu de mettre un peu là-dedans, de voir comment fonctionne le basket, les enjeux, les stratégies, etc. Et oui, j'aimerais beaucoup voir l'année prochaine ce match en France. J'ai cru comprendre que ça avait été confirmé il y a 2-3 semaines, là, il y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas quand est-ce que la billetterie va être ouverte, etc. Mais voilà, moi, j'essaierai d'y participer. Ouais.
Bah, je pense que ça va être un peu comme dans la cybersécurité. Il va falloir être réactif pour avoir des billets. Parce que je pense que ça va être la folie pour aller voir Wembanyama jouer en France. On parle de sport. Est-ce que toi, tu pratiques le sport? Est-ce que tu as pratiqué des sports étant plus jeune? Avec peut-être dans un sport ou plusieurs, cette envie de te dire « j'ai envie d'être un champion ». Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques toujours ce même sport ou est-ce que tu t'es tourné vers d'autres sports?
J'ai testé beaucoup de sports étant plus jeune. Des sports assez, on va dire, classiques pour un citadin comme du foot, du tennis, du volley, du basket aussi d'ailleurs. Voilà, donc plein de sports, on va dire, collectifs, ou pas, le tennis, mais voilà, des sports assez classiques. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai goûté au ring. Et alors là, je suis tombé tout de suite, littéralement accro de la discipline. En fait, voilà, ça s'est passé en 2015. J'ai commencé par un 10 km, rapidement après par un marathon. Et en fait, dès l'année suivante, en 2016, j'ai commencé à me mettre sur du trail. Donc, j'habitais au Maroc à l'époque. Et j'ai fait un trail, c'est la première édition du trail de Chef Chaouen. Donc, moi, j'avais pas tout le matériel, etc. Il faisait pas super beau. J'étais parti un peu sous-équipé. On m'a passé un pull pendant la course, etc. Enfin, voilà, c'était assez folklore. Mais ça m'a fait un super souvenir. Et puis, rapidement après, voilà, j'ai continué à faire des trails un petit peu localement au Maroc. Je suis rentré en France, j'ai continué à faire des trails et depuis, voilà, j'ai pas arrêté. Et ouais, le trail, c'est vraiment une passion. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce sport. En fait, il y a un côté, enfin, l'authenticité du trail, le côté authentique où voilà, on peut faire un sport en fait en pleine nature. On prend sa paire de chaussures avec bon, un peu d'équipement, comme je l'ai dit, ça reste important quand même. Mais on peut aller voilà, se balader en pleine nature, on voit une petite bosse ici, hop, on y va, on voit une vallée là, on a envie d'y aller, on y va, on veut se faire une journée entière un peu. Enfin, il y a ce côté un petit peu liberté, où il y a moins de règles qu'un sport collectif finalement, où, etc. Et puis, si on veut y aller tout seul, on peut, on n'est pas obligé de monter une équipe, donner rendez-vous tel jour, tel moment pour pratiquer son sport, on peut y aller au moment où on a envie. Et moi, ce côté un petit peu liberté du running, du trail, moi, j'adore.
Et est-ce que tu participes à des compétitions? Est-ce qu'il y a aussi derrière ce trail, et si tu fais des compétitions, cette envie de dépassement de soi, de se dire bah, « j'y suis arrivé, le trail, moi, ça me paraît incroyable ». Moi, le bobsleigh, je courais 5 secondes avant de monter dans mon bob. Là, quand je vois un Kylian Jornet qui fait l'UTMB en 20 heures, etc., je me dis « mais comment ils font ?» Il n'y a pas longtemps, il y avait la Barclay. C'est des trucs fantastiques. Toi, tu fais ce genre de course, l'UTMB, la Diagonale des Fous, ou si ce n'est pas le cas encore, est-ce que c'est des choses que tu as envie de faire?
Alors, enfin, cette année, j'ai eu un tirage de sort positif pour l'UTMB. Donc, fin août, je serai sur la ligne de départ de l'UTMB. Donc, c'est un objectif que je me suis mis en tête en 2017. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et j'y suis allé par étapes. D'abord, j'ai voulu faire la CCC dans un premier temps, qui est en fait la petite sœur de l'UTMB, qui fait 100 km et 6100 de dénivelé, il me semble. Donc celle-là, je l'ai faite en 2021. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, voilà, le vrai objectif était du coup l'UTMB. Donc voilà, j'ai fait assez 2 ans où j'ai pas été tiré au sort, 2022-2023. Et cette année, c'est bon. Donc c'est, voilà, là, je suis en pleine séance d'entraînement depuis 2 mois maintenant. Et j'attends ça avec impatience.
Ouais. Et comment on fait pour s'entraîner? Parce que quand tu fais l'UTMB, c'est un peu plus de 160 km. Ça veut dire que globalement, à l'entraînement, il faut quand même enquiller des kilomètres. Comment tu trouves le temps? Comment tu t'organises avec aujourd'hui ton travail chez Bitdefender et pour pouvoir faire tous ces entraînements qui sont nécessaires et indispensables pour pouvoir se dire « je fais l'UTMB », même sans dire « je veux le gagner, mais je veux le finir ».
Alors, je vais avoir à peu près 4 voire 5 séances par semaine. Je vais en avoir 3 pendant la semaine, donc pendant la semaine de travail, où là je vais me lever un peu plus tôt avant d'aller travailler, et puis je vais faire des séances entre 1h et 1h30, du fractionné, où je monte et descends un peu de dénivelé, etc. Et après le dimanche, là je vais faire les sorties longues. Hier par exemple, je me suis levé à 4h30 du mat un dimanche pour aller courir. Voilà, c'est une passion, hein, ça ne s'explique pas, mais c'est, voilà. Même si au moment du réveil, ça pique un peu, après on est content de le faire. Et voilà, le dimanche, je vais faire des sorties un peu longues. Donc, de temps en temps, je vais faire des sorties de au moins 3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 5 heures, 7 heures le dimanche. Et en général, j'essaie d'être revenu pour 13 heures, 14 heures, pour quand même manger pas trop tard.
Et quand on voit, si on fait le lien avec Bitdefender, la sécurité, où il y a quand même beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de choses à respecter, L'UTMB, c'est aussi ça, parce que je ne sais pas quel est ton objectif en termes de temps, mais si les meilleurs font 20 heures, c'est peut-être, je sais pas, 25, 30 heures, etc. Mais c'est toute une organisation derrière tout ça, pour les ravitaillements, pour savoir comment dormir, pour tout le matériel. Tu en parlais, ton premier trail où tu es parti au Maroc et on a dû te passer un pull, là, je suppose qu'en termes de chaussures, chaussettes, alimentation, etc. Comment tu t'organises pour que tout ça roule le jour J et que tu n'aies plus qu'à penser à profiter de cette course extraordinaire?
Alors, déjà, il y a l'expérience qui fait que je sais à peu près ce dont j'ai besoin, par exemple, en termes de nutritifs. Donc, moi, par exemple, les gels, je peux pas en prendre. Ça passe pas du tout. Je vais avoir mes marques un petit peu favorites dans les bars, les compotes. Ça passe très bien. J'ai voilà, un certain nombre dans mon sac qui, en général, permet de faire la course en entier. Et puis après, de toute façon, sur chaque course, il va y avoir une liste de matériel obligatoire. Donc, il faut la suivre. Il faut réussir à tout mettre dans le sac. En général, ça fait des sacs assez lourds. Quand on a l'eau, plus le matériel, la nourriture, on peut avoir des sacs à 5 kilos, 6 kilos à porter pour l'épreuve. Ouais.
Et dans ces... ces épreuves, dans tous ces sports qu'on a cités, est-ce que toi, jeune, tu avais des champions qui t'inspiraient ou est-ce qu'aujourd'hui, tu en as d'autres qui, à la fois par leur performance sportive ou leur comportement en dehors de leur champ sportif, t'inspirent, te passionnent ou que tu suis? Est-ce que tu as des noms à nous donner sur ces sportifs ou sportives?
Ouais, alors déjà, je suis toujours impressionné par... l'athlète de haut niveau en général, c'est-à-dire qui a fait tellement de compromis dans ses choix, dans sa vie, dans sa carrière, pour se concentrer sur son activité, pour répéter les mêmes gestes, pour quel que soit le sport, ça m'impressionne. Et après, oui, j'ai quelques noms, mais qui sont évidemment plus liés au niveau du trail, puisque c'est la discipline dans laquelle je me passionne. Mais par exemple, un François Denne. Moi, il me fascine pour plusieurs raisons. Déjà, son palmarès. Enfin, quand on a gagné 4 fois l'UTMB, quand on a gagné 4 fois la Dégueulasse des Fous, voilà. Déjà, on montre un petit peu le niveau qu'on a. Mais voilà, à côté de ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est un grand champion et qui arrive à avoir son activité à côté. Donc, il a arrêté, mais pendant une dizaine d'années, il était il était vignoble. Donc, il avait sa production de vin. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir concilier les deux. Donc, pas faire uniquement que son sport à haut niveau, mais également d'avoir son activité à côté. Et moi, je trouve ça incroyable. Et puis, surtout, de le choisir, finalement. Parce qu'il avait fait des études de kiné. Il avait commencé en tant que kiné. Et il a mis ça en pause pour pouvoir faire, justement, cette activité de vigneron. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir plusieurs carrières... sur carrière en même temps également. C'est génial.
Est-ce que ce n'était pas aussi un petit peu obligatoire du fait que le trail a pris quand même un essor médiatique sur ces dernières années avec tout ce qui va derrière en termes de sponsoring et tout ça? Mais est-ce qu'à l'époque, tu n'étais pas obligé, quand tu étais même un François Daen, la première fois qu'il gagne l'UTMB ou la Diagonale des Fous, c'est pas très médiatique et du coup, c'est dur d'être sponsorisé. Donc, tu es obligé, même si c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement, d'avoir une activité à côté pour vivre, en fait.
Alors, peut-être. C'est vrai que je connais pas leur salaire qui touchait à l'époque. Mais il y a quand même eu un choix qu'il a fait, c'est d'arrêter mon kiné pour faire vigneron. Donc, rien que ça, c'est ça montre qu'il choisit son destin, ce qu'il veut faire et je vous avoue, quoi. Et puis on a aussi, on en parle un peu moins, je trouve, mais Xavier Thévenard, que j'aime beaucoup le personnage, parce qu'il a, pareil, c'est un super athlète, hein, il a gagné 3 fois l'UTMB, il a gagné la CCC, l'OCC, la TDS, donc il a gagné quand même les courses principales de l'UTMB, et puis plein d'autres courses aussi, hein, j'ai pas toute la liste en tête. Et moi, ce que j'aime bien aussi, alors, il est quand même très. Je parlais d'authenticité tout à l'heure dans le trail. Je pense qu'il représente bien ça. Il aime bien ce qui est finalement très simple. Et il a une pratique du trail qui est simple, on va dire. Il se prend pas la tête. S'il veut aller courir il va courir, il n'a pas forcément des plans d'entraînement très établis, etc. Enfin, c'est comme ça que je vois, peut-être qu'il dira le contraire. Et, mais voilà, c'est, j'aime bien son côté très humble aussi. Hein, très humble. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant qu'il avait fait, moi je trouve, c'était en 2020. Il avait mis terme avec son sponsor ASICS pour des raisons environnementales, pour ses convictions environnementales. Et c'est quand même un choix qui n'est pas anodin, parce que quand on est athlète élite comme ça, le fait d'avoir un sponsor, c'est une source, une entrée d'argent, c'est avoir accès à des coachs, avoir accès à des inscriptions sur des courses. Et il a pris le choix de dire non à ça pour avoir un peu plus de liberté sur les courses auxquelles il veut participer. Et puis, sur un point de vue environnemental aussi, je crois qu'il voulait des marques plus éco-responsables. Et je trouve que c'est un choix qui est quand même assez. Je cherche mon mot, mais oui, enfin, assez.
Assez fort.
Ouais.
On a cette sensation. Hein, tu as cité deux grands athlètes français. Il y a Kylian Jornet aussi qui a fait beaucoup pour la discipline. Et des fois, on les voit, ils disent ben voilà, je traverse les Pyrénées en courant, c'est pas une course, c'est juste pour le plaisir, pour se dépasser.
Ouais, tout à fait. Ouais.
On a eu aussi. Tu parlais de cette prise de conscience de Xavier Thévenard par rapport à son sponsor. On l'a eu récemment sur l'UTMB, hein, qui a fait un partenariat avec un constructeur automobile. Et c'est vrai que la communauté des trailers, en tout cas ceux qui sont médiatiques, c'est un peu insurgé contre ça. Donc, alors c'est vrai que d'un côté, l'UTMB, ça grossit. Puis il faut des sponsors pour organiser un tel événement, parce qu'il y a aussi de plus en plus de monde. Il y a du prize money, il y a aussi un problème de sécurité. Et de l'autre côté, on peut comprendre que ça reste naturel. Hein, tu mets des chaussures, puis tu vas courir dans la nature. Tu comprends à la fois ce côté UTMB, il nous faut de l'argent pour pouvoir organiser tout ça, et de l'autre côté, ce que peuvent dire les trailers par rapport au fait essayer quand même de trouver un autre sponsor qu'un constructeur automobile.
Je comprends. Après, on est sur un sport qui se développe beaucoup. Moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir une course un petit peu, un événement un peu référence, qui monte, qui est médiatisé. Alors, après, sur le choix du sponsor, c'est sûr qu'il y a des marques qui sont plus, qui vont plus penser à la nature que la voiture. Mais il y a plein de sports comme ça. C'est vrai que je me rappelle dans les JO, je crois qu'il y avait McDonald's comme ça qui a été sponsor, ou qui est peut-être encore, je ne sais plus. Aujourd'hui, c'est Coca-Cola, je crois, pour les prochains. Mais voilà, ce n'est pas forcément vrai, les premières marques qu'on va penser pour le sport. Mais c'est une façon de faire grossir aussi l'événement, la société. Et puis, d'un côté, dans le monde du trail, il va y avoir quand même cet événement UTMB et d'autres aussi, ça peut être le seul, mais quelques gros événements comme ça qui vont grandir, éclore. Mais il y aura encore toujours les petites courses locales où on retrouve vraiment une ambiance trail où tout est un peu simple, où on peut s'inscrire comme ça, limite du jour au lendemain. Et voilà. Et pour moi, tant qu'il y a les deux, c'est bien. Finalement, on a le meilleur des deux mondes. En fonction des appétences de chacun, on peut les diriger vers un peu le gros show à l'américaine avec des grosses courses et les stars mondiales qui vont dessus, etc. Et si on ne veut pas de ça, il existe beaucoup de courses en France avec des courses beaucoup plus à taille humaine.
Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, comme tu le dis, ces événements qui sont médiatiques, que ce soit l'UTMB, que ce soit les JO, oui, certes, ils ont des sponsors. En termes de bien manger, c'est sûr que ce n'est pas McDonald's auquel tu penses le premier. En termes de bien boire, ce n'est pas non plus Coca-Cola. Mais aussi, ces sponsors qui amènent beaucoup d'argent, tout comme le constructeur automobile à l'UTMB, ça permet aussi, comme tu l'as dit, de développer d'autres choses, d'autres associations qui vont permettre de développer le trail, qui vont permettre de faire passer des messages autour du sport pour les JO dans des pays défavorisés, etc. Et en fait, il faut essayer que ce soit un cercle vertueux. Oui, on pourrait, si on peut, on trouve d'autres sponsors, mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'un côté, ça permet aussi, dans le cadre de l'UTMB, de développer cette discipline, de peut-être mettre plus de participants qui ne vont peut-être pas faire l'UTMB, mais comme tu le dis, qui vont faire un trail local, qui vont découvrir la nature. Et je pense que ça participe d'une bonne pratique globale et générale.
Mmh, tout à fait, oui. Ça va, d'accord.
Et en termes de management, comment ça se passe pour toi? Je suis intéressé de savoir, on l'a dit au début, ta zone, elle va de l'Europe au Moyen-Orient, l'Océanie, l'Afrique, avec une multiculturalité. Comment tu manages tout ça, toi? Comment est-ce que c'est quelque chose qui te motive de se dire, bah, tiens, je rencontre des personnes différentes, avec des points de vue différents? Comment tu arrives à faire en sorte que tout fonctionne?
Oui, moi déjà, le côté multiculturel, international, c'est quelque chose que j'adore. C'est mon autre passion dans la vie, c'est après le sport, c'est aussi en fait voyager, découvrir d'autres endroits du globe, etc. J'ai un rêve depuis que j'ai 3-4 ans, c'est d'aller dans tous les pays du monde. Et je les compte. Alors aujourd'hui, j'en suis à 72 pays. J'essaye régulièrement d'aller dans des nouveaux pays, apprendre sur la culture locale, tester les spécialités locales, surtout, c'est important. Je suis assez gourmet et j'aime bien tester tout ce qui est spécialité locale d'un pays. Et donc, pour revenir sur l'ensemble des défendants, c'est que c'était une des choses qui m'intéressait, c'était ce côté international. Et à manager, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes codes quand on va parler en Asie ou au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Mais finalement, enfin, tant qu'on est clair dans ses objectifs et où, enfin, comment on va définir les étapes pour y parvenir, finalement la communication est assez simple.
Du coup, sur 72 pays, c'est énorme. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais j'en suis pas là. Quel est le pays qui t'a le plus plu, si tu en as un, et celui qui t'a le plus surpris?
Alors, on me pose toujours la question, est-ce que j'ai un pays qui sort du lot? C'est très difficile comme question parce que, en fait, même le pays le plus proche de la France géographiquement, moi, va m'intéresser. C'est pas le plus appelable culturellement parce qu'il est plus proche de la France, etc. Mais dès que je voyage, je suis content, je découvre. Mais il y en a un qui m'a peut-être un peu plus marqué, ça va être peut-être le Maroc parce que j'y ai habité. J'ai habité pendant 2 ans et quand on habite sur place, bah évidemment, on a une autre approche que juste pour les vacances, une semaine, 2 semaines. Donc voilà, j'ai pu me faire des contacts sur place, visiter vraiment tout le pays, parce que enfin, peut-être il y a toujours des choses à voir encore, mais j'avais le guide Lonely Planet là, qui faisait 450 pages et j'avais tout coché. Tous les week-ends, je partais dans une ville, une montagne, une mer. Voilà, j'allais voyager dès que possible. Et donc, j'avais quand même visité beaucoup, beaucoup d'endroits au Maroc. Donc, oui, le Maroc, ça m'avait assez marqué. Ouais. Le plus surpris, comme ça, j'ai rien qui sort forcément du lot. Mais bon, et oui, il y a des pays qui m'ont marqué, ça, il y en a beaucoup. Ouais.
Si on est un peu plus large, il y a une région quand même où tu te sens à l'aise, où tu sais que tu es un peu plus dans ton univers. Est-ce que c'est l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique? Est-ce qu'il y a quand même un continent qui t'attire plus qu'un autre?
Oui, j'aime bien l'Asie. L'Asie, alors j'ai eu l'occasion aussi d'habiter un petit peu en Corée du Sud. Quelque chose que j'aime beaucoup en Corée du Sud, Japon. La technologie, moi, c'est aussi une passion, la technologie. J'ai quelques passions. J'ai le sport, le voyage, la technologie. Et la technologie, ouais, c'est ça que c'est assez fascinant quand on se rend dans ces pays. Voilà, il y a quand même, sur certains usages, une impression d'avoir un pays qui a quelques années d'avance par rapport à l'Europe. Même si j'ai l'impression que ces années d'avance tendent à se réduire. Mais bon, il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'avance sur ce choses. Moi, il y a 10 ans, quand j'habitais en Corée du Sud, déjà à l'époque, pour ouvrir ma porte, c'était une simple chambre étudiante, hein, mais c'était d'empreinte digitale, etc. C'était il y a 10 ans. Hein. Mais voilà, c'est tout le côté technologie, moi, m'a toujours assez impressionné dans ces pays. Ouais.
Sur la Corée du Sud, j'ai fait exactement le même constat que toi. J'ai eu l'occasion d'y aller souvent à une époque pour le sport. Et pareil, ils en mettent de partout en fait. On parlait de management interculturel, etc. Et on fait souvent la comparaison entre le management sportif et le management en entreprise. On dit qu'il y a beaucoup de points communs sur la manière de gérer les équipes, définir des objectifs, etc. Est-ce que pour toi, il y a un nom d'entraîneur sportif qui, de la manière dont il gère ses équipes, ferait, par rapport à ta connaissance que tu as de l'entreprise, un bon manager parce qu'il s'est motivé, il sait gérer les situations de stress? Est-ce que tu as un nom comme ça d'un entraîneur, d'un coach sportif qui, pour toi, ferait un bon manager en entreprise?
Alors, j'adore suivre le sport, mais je suis pas assez calé pour te sortir des noms de coach. Alors, j'en connais hein, des coachs, mais j'ai pas un nom particulier à mettre en avant. Après, par contre, voilà, si on doit dire prendre des attributs qui font qu'un coach ferait un bon manager, il y a l'obtention des résultats, mais ça, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Moi, quelque chose qui est assez important, je pense, dans les deux cas, c'est de savoir motiver son équipe. Et quand je dis équipe, que ce soit pour un sport collectif ou si c'est un simple athlète pour l'entraînement du 100 mètres en mer. Voilà. Savoir motiver la personne qui va coacher pour accroître la confiance en cette personne, dans l'athlète ou dans l'équipe, hein, si c'est dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est tout ce côté motivation pour accroître la confiance. Et également identifier les qualités de chacun pour les utiliser et les mettre en avant. Et ça, pour moi, c'est les deux choses principales qu'on devrait pouvoir retrouver chez un bon manager.
Et pour continuer la comparaison, est-ce que toi, tu te sers de ta passion du sport pour en parler à tes équipes? Est-ce que vous faites des fois des choses ensemble? Est-ce que vous lancez un défi genre, ben voilà, on est l'équipe, il y a le marathon de Paris, on fait un équidance, c'est-à-dire le marathon en équipe. Est-ce que toi, c'est un ressort, le sport, pour toi? Est-ce que c'est quelque chose d'important quand tu vois quelqu'un dans ton équipe qui fait du sport? Est-ce que pour toi, ça transporte certaines valeurs qui sont importantes pour une équipe, même dans une entreprise?
Alors oui, c'est vrai que quand on... Voilà, moi je suis arrivé il y a un an, et quand on arrive dans une nouvelle entreprise, moi c'est vrai que c'est une des premières questions que je vais poser un petit peu, c'est est-ce que tu fais du sport, etc. Je trouve qu'il y a déjà un état d'esprit, en fait, sur une personne qui fait du sport, même si c'est un autre sport que le mien. Quelqu'un qui va pratiquer un sport à plus ou moins forte intensité, hein, mais qui va en faire, déjà je trouve que c'est une ouverture d'esprit importante. Et donc, j'ai naturellement un peu plus d'appétence à parler avec des personnes qui vont aimer le sport qu'une personne qui n'aime pas du tout le sport et qui me dit le sport, moi, je comprends pas le sport ou je veux pas en faire, etc. Donc, je vais toujours avoir voilà, plus de facilité avec ces personnes-là.
Et sur les qualités qu'on associe au sport, aux sportifs, tu as parlé de confiance en soi, de motivation, etc. Est-ce qu'il y en a une que toi, tu associes justement aux athlètes de haut niveau, que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir?
Je pense que quand on est athlète de haut niveau, il faut avoir cette envie d'être meilleur que les autres. Moi, par exemple, quand je vais faire quand je vais faire mes courses de trail en compétition, je vais me battre contre moi-même. Et en fait, les élites qui vont participer à cette compétition vont pas se battre contre eux-mêmes, mais vraiment contre les gens autour d'elles pendant la course. Tandis que moi, quand je vais faire ma course, si je vois qu'il y en a un qui est à 20 mètres devant moi, mais il est à 20 mètres devant moi, mais tant mieux pour lui. Mais moi, ce qui est important, c'est moi, c'est gérer mon effort et me sentir bien dans mon effort. Et je pense que c'est une grosse différence entre les amateurs et les élites, ouais. C'est ce côté où il faut être meilleur que les autres, quoi. Et que moi aujourd'hui, je pense pas avoir j'ai pas cette recherche d'être meilleur que les autres. Pour moi, c'est je pense à moi, ma position à moi, avant de penser à battre les autres.
Est-ce qu'à contrario, par contre, dans ton côté professionnel, tu as cette envie? Comme on le disait, Bitdefender, vous êtes un des leaders mondiaux de la cybersécurité. Vous avez d'autres gros concurrents. Est-ce que par contre, là, dans ton poste chez Bitdefender, l'envie, c'est d'être le meilleur mondial, comme on peut voir, par exemple, la bataille chez les avionneurs entre Airbus et Boeing?
Ça, c'est indéniable. Mais d'ailleurs, on a les meilleurs résultats. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les instituts de tests indépendants comme AV Test et AV Comparative qui qui montre que les défendeurs ont les meilleurs résultats des 10 dernières années, souvent les tests indépendants. Donc. Mais oui, là-dessus, on essaye d'être évidemment les meilleurs fréquentants.
Et ça tu sens que tu l'as dans ton côté professionnel, tu l'expliquais, tu l'as pas forcément sur ton côté sportif amateur. Par contre, côté professionnel, tu as cette envie de vous êtes les meilleurs, de rester les meilleurs, quoi.
Ah bah oui, ça c'est même pas une envie, c'est une obligation. Il y a pas le choix, on a le meilleur logiciel de sécurité et on continuera à l'avoir.
Bah écoute, on suivra ça dans les semaines, dans les mois qui viennent, et puis on regardera toute cette évolution à la fois personnelle et professionnelle. Donc là, dans les semaines, les mois qui viennent, toi, personnellement, c'est quoi la préparation de l'UTMB, tu l'as dit, et pour Bitdefender
Et Bitdefender, on c'était toujours continuer à augmenter nos parts de marché en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, un peu partout. Alors en France, on est déjà leader, bien leader. Donc pour l'instant, on maintient nos positions en France, mais sinon, on va progresser sur tous les marchés où on est présent. On est présent dans 150 pays aujourd'hui. Donc, voilà, y a du travail.
Et sur l'UTMB, avant la course, il y a d'autres petits trails de réglage, tout ça, ou c'est juste entraînement jusqu'à l'UTMB?
Oui, alors j'ai le trail Verbier by l'UTMB. Donc, c'est une des courses qualificatives de l'UTMB. Mais moi, je ne l'ai fait pas pour me qualifier, je l'ai fait pour m'entraîner. Donc, ça, c'est début juillet. Et j'ai aussi l'habitude, alors c'est une fois par an, on part avec une dizaine de potes. Faire un week-end choc. Donc, en fait, on court tout le week-end sur 3 jours. On fait 60, 70 km par jour. Donc, là, cette année, ça sera dans le Jura. On fait ça début mai. Voilà, c'est une petite habitude. Une fois par an, on fait ça. C'est sympa. Ça permet de revoir des têtes et puis de faire du sport ensemble. Et j'ai pas encore fait toutes mes courses, car toutes mes courses, mais il faut que je mette quelques sorties longues en juillet, août. Ouais.
Et objectif UTMB en termes de temps, t'en as un?
Alors, premier objectif, évidemment, c'est de finir. Et en termes de temps, en dessous de 37 heures, j'en vois bien. 37 heures, sachant que le plus gros peloton va arriver dans les 40 heures à peu près. Donc, c'est se mettre un petit peu avant le peloton.
Eh bien, écoute, c'est un très bel objectif. Je ne manquerai pas de mettre tous les liens vers à la fois Bitdefender, le site, et puis vers ton profil LinkedIn, comme ça les gens pourront suivre aussi ce que tu fais, et puis voir sur les réseaux sociaux tes péripéties de course de tout l'été, et puis Bitdefender avec tous les partenariats qu'on a pu citer, à la fois avec les Spurs de Wembanyama, la Scuderia Ferrari et l'équipe de hockey des Chicago Wolves. Merci en tout cas, Vincent, pour ce partage. C'était très intéressant et de voir ce lien entre la technologie, la cybersécurité de haut niveau et le sport de haut niveau et comment tu manages tout ça. Merci pour tout ça.
Merci, merci Eric pour l'invitation.
Et puis à tous les auditeurs, je vous donne bien entendu rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'entrepreneuriat, c'est du sport.